Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À chaque jour, ou presque, son plan de relance après les 8 milliards d'euros annoncés hier par Emmanuel Macron pour soutenir l'industrie automobile française, victime d'un coup d'arrêt dû à la crise sanitaire, l'Union européenne cherche, elle aussi, à relancer l'économie des 27 avec un plan à 1000 milliards d'euros des prêts et des dettes qui inquiètent les pays du Nord.
Pour les convaincre, la Commission européenne met en avant des projets verts. Il faut accélérer la transition écologique, martèlent les ONG européenne.
À la une encore, d'âpres débats aujourd'hui au Parlement en France sur l'appli Stop Covid destinée à enrayer l'épidémie de coronavirus, critiquée au sein même de la majorité pour atteinte à la vie privée. Aux États-Unis, la colère de Donald Trump sur Twitter, le réseau social a pour la première fois signalé deux messages du président américain comme trompeurs.
Mais puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, comment encadrer le télétravail? Nous poserons la question à un juriste, Grégoire Loiseau.
Les experts lui prédisent cette année la pire récession de son histoire. L'Union européenne est au bord du précipice et pour ne pas plonger davantage dans le marasme économique, la Commission va dévoiler aujourd'hui le détail de son plan de relance pour les 27. Il promet de difficiles négociations avec les pays du Nord, peu enclins à financer la relance au Sud. Les précisions à Bruxelles d'Angélique Bouin.
Un plan de l'ordre de 1000 milliards d'euros composé à la fois de prêts aux États mais aussi d'aides directes non remboursables comme le préconisent Paris et Berlin. Une aide qui doit aller en priorité aux régions et secteurs abîmés par la pandémie, tourisme, automobile ou encore culture. Pas question non plus de la distribuer sans garantie. Les États bénéficiaires devront investir dans des projets verts ou numériques, deux priorités de la Commission. Enfin, il faudra s'engager à des réformes sans pour autant être mis sous tutelle. Des milliards qui seront empruntés par la Commission européenne à un taux réduit grâce à son triple A, une dette commune donc, mais c'est là que la proposition est innovante, ce sera le futur budget européen qui remboursera après 2027. Et pour alléger la contribution des États, d'ici là la Commission entend bien se doter de nouvelles ressources propres, taxes plastiques ou taxes carbone aux frontières par exemple. On ne manque pas d'idées, confie une source européenne, ce ne serait donc pas aux contribuables du Nord de payer pour le Sud, reste à les convaincre, la négociation ne fait que commencer.
Ce plan de relance européen, une occasion unique d'accélérer la transition écologique, c'est ce qu'espèrent en tout cas les ONG environnementales comme Réseau Action Climat et son responsable des politiques européennes, Neil Makarov.
Si on trouve un vaccin pour le coronavirus, on risque de ne pas trouver de vaccin contre la crise climatique. C'est Ursula von der Leyen qui l'a dit et je pense qu'elle a raison. On doit utiliser ce plan de relance européen pour véritablement investir dans l'avenir et dans la transition écologique. On n'aura pas dans les prochaines années des plans d'investissement de centaines de milliards tels que celui-ci. C'est vraiment l'opportunité d'une décennie. La première condition, c'est de faire en sorte que ce plan de relance ait un niveau d'ambition climatique suffisant qui puisse viser la baisse des émissions de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici à 2030. La deuxième condition, c'est qu'il mobilise massivement des investissements directs dans l'économie et que ce ne soit pas des prêts qui en fait feraient que retarder la transition écologique. Et la troisième condition, c'est qu'il cible les secteurs qui sont véritablement les secteurs de la transition écologique, et non pas les énergies fossiles ou l'aérien, mais qu'il cible par exemple la rénovation des logements, la transformation de l'industrie, le développement des énergies renouvelables, bref, autant de chantiers indispensables à la transition écologique.
Neil Makarov, responsable des politiques européennes au sein du réseau Action Climat, il répondait à Véronique Rebérotte. Les ONG de défense de l'environnement qui dénonce par ailleurs un plan climaticide. C'est l'accusation portée par Greenpeace France après le plan de soutien à la filière automobile détaillé hier par Emmanuel Macron. L'État aidera le secteur à hauteur de 8 milliards d'euros. En contrepartie, les constructeurs se sont engagés à relocaliser une partie de la production à valeur ajoutée et à maintenir l'emploi en France. Par ailleurs, PSA va fortement augmenter sa production hexagonale de véhicules hybrides et électriques. 450 000 véhicules promis, tout comme Renault. Écoutez l'analyse de Bernard Julien, spécialiste automobile et maître de conférence à l'Université de Bordeaux.
Si on se sert de l'électrique pour dire on fait l'électrique mais on arrête de délocaliser, voire on relocalise une partie des fabrications, peut-être que le deal peut être présentable pour les salariés. Évidemment, le problème que l'on rencontre déjà et qu'on rencontrera plus encore à l'avenir, c'est la sous-traitance, puisque les pièces qui équipent les véhicules thermiques, elles sont achetées à un certain nombre d'entreprises équipementières ou de petites entreprises sous-traitantes. Elles vont fatalement pâtir d'une spécialisation de la France sur l'assemblage de ces véhicules moins gourmands en emploi, moins gourmands en pièces, moins gourmands en valeur. Au fond, hein, que sont les véhicules électriques. Mais la contrepartie que nous aimerions vous voir respecter, c'est que l'assemblage de ces véhicules dont nous allons subventionner l'achat soit le plus possible fait en France. On n'en prenait pas vraiment le chemin. Hein. Il y a peut-être une correction, un cap hein, qui va être obtenu grâce à ce plan du milliard d'euros.
Bernard Julien, spécialiste automobile, maître de conférence à l'université de Bordeaux, joint par Hakim Casmier. J'ajoute que le groupe PSA annonce qu'il produira en France dès 2022 des composants mécaniques qui sont aujourd'hui sourcés en Asie. La future 3008 plus verte sera par ailleurs produite à l'usine PSA de Sochaux. L'annonce hier de la direction n'a pas véritablement soulevé l'enthousiasme des syndicats qui attendent encore un calendrier précis. Et puis, à la veille de mauvaises nouvelles chez Renault, 4 sites menacés d'arrêt de production, on le rappelle en France. Le constructeur s'apprêterait à supprimer 5000 postes d'ici à 2024. Pas de licenciements, mais des départs naturels à la retraite qui ne seraient pas remplacés. Information de nos confrères du Figaro qui suscite déjà la colère en interne. Récession, relance ou encore PIB, des concepts qui nous enferment dans le monde d'avant. C'est le thème de la dernière bulle économique de Marie Viennot à retrouver sur franceculture.fr.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les députés puis les sénateurs vont se prononcer aujourd'hui sur l'application mobile Stop Covid.
Censée permettre d'identifier les personnes qui ont été en contact avec des malades pour qu'elles puissent être testées à leur tour. Cette application est volontaire, anonyme et temporaire selon le gouvernement. Elle a reçu le feu vert de la CNIL et elle pourrait être disponible sur les smartphones dans quelques jours à condition que le Parlement donne son accord, répète le secrétaire d'État au numérique. Mais le dispositif suscite déjà des remous jusque sur les bancs de La République En Marche à l'Assemblée. De nombreux parlementaires y voient un danger pour les libertés publiques, Pierre Neveu.
Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, affirme ne pas craindre de division au sein même de la majorité. Et pourtant, l'application Stop Covid divise. Sacha Houlier, l'un des orateurs du groupe LREM, s'interroge. Est-ce une mesure nécessaire et proportionnée ? Non. Sa crainte, que l'on pérennise de nouvelles mesures de restriction des libertés publiques. Issu de la majorité, le nouveau groupe Écologie, Démocratie, Solidarité fera entendre sa voix contre un solutionnisme technologique qui ne répond pas aux enjeux d'éthique et de liberté. Le groupe Les Républicains votera contre également. Le député du Lot, Aurélien Pradier, en fait une question de principe, dénonçant une nouvelle atteinte à nos libertés fondamentales après l'installation des brigades sanitaires qui ont fait sauter le verrou du secret médical. La gauche se montre également farouchement opposée au traçage numérique, refusant une société de surveillance basée sur le volontariat mais avec un pistolet sur la tempe. On le voit, malgré les garanties apportées par le gouvernement sur cette application Stop Covid, c'est le monde imaginé par George Orwell d'une société sous surveillance qui animera les débats cet après-midi.
Et l'application Stop Covid va subir les assauts de milliers de hackers éthiques missionnés par l'État pour détecter des failles dans le logiciel. La France a confié cette campagne de recherche de vulnérabilité à Yes We Hack, une société hexagonale qui travaille avec près de 15 000 hackers éthiques dans le monde. Son PDG, Guillaume Vassoulière.
On va tester avec 25 hackers éthiques répartis sur toute l'Europe. Les tests vont durer jusqu'à temps que l'application soit publique, donc publiée par le gouvernement après le vote, un débat parlementaire. Après, une fois que c'est public, en fait, toute personne dans le monde ayant un bug de sécurité lié à l'application Stop Covid France pourra le remonter via la plateforme de Yes We Hack et se verra attribuer une prime. Nous, on va avoir des périmètres de tests en fait à faire. Et ça va de la mise en indisponibilité de l'application. Donc imaginez quelqu'un qui veut que l'application ne soit plus disponible, fasse tomber les serveurs. Bah nous, on va simuler ce type d'attaque jusqu'à la prise de contrôle entier du système d'information et des infrastructures de Stop Covid. Voilà, donc on va tous tester tout ce qui est intégrité des données, les problèmes de falsification, génération de QR code. On va s'assurer que l'applicatif va vivre en étant à l'état de l'art de la cybersécurité aujourd'hui.
Guillaume Vassoulière, PDG de la société Yes We Hack, il répondait à Catherine Pétillon. Le Parlement a définitivement adopté hier par un ultime vote à l'Assemblée la proposition de loi centriste pour accompagner les familles après le décès d'un enfant. Texte adopté donc à l'unanimité par les députés qui prévoit de porter le congé pour deuil d'enfant à 15 jours ouvrés. Le texte, on s'en souvient, avait été à l'origine d'un couac au sein de la majorité présidentielle en début d'année. L'Assemblée qui plaide par ailleurs pour la création d'un statut pour les enfants de soignants morts à cause de l'épidémie de Covid-19, un statut sur le modèle des pupilles de la nation. Et de 10, l'Assemblée nationale compte désormais 10 groupes parlementaires. Le 10e est constitué de députés Agir, le parti créé par le ministre de la Culture Franck Riester, constitué également de marcheurs. Anne Fauquemberg, vous nous expliquez à quoi va servir ce nouveau groupe.
Contrairement au 9e groupe dissident de LREM, ce 10e groupe, Agir Ensemble, veut s'exprimer à l'intérieur de la majorité. Les 17 membres qui se sont dévoilés hier dans une conférence de presse numérique se voient comme un troisième pilier, aux côtés du Modem et des marcheurs. Ils veulent affirmer une ligne libérale, sociale, humaniste et européenne, selon Olivier Becht, le député du Haut-Rhin et leur président.
C'est pas un divorce, si vous voulez, avec l'UDI qui nous pousse à créer ce groupe, c'est une démarche de députés qui ont envie d'agir et de proposer des idées, de faire bouger les lignes au moment auquel nous pensons qu'il faut les faire bouger, qu'il faut tout réinventer.
Plusieurs députés de ce groupe sont aussi des proches des ministres recrutés à droite. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu ou encore Édouard Philippe. Ils jurent qu'ils ne sont pilotés par personne, mais à l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui parvient à conserver son groupe, dit ne pas être dupe.
J'avoue que je suis assez stupéfait des politiques aériennes. Est-ce que des députés ou des ministres s'occupent d'eux-mêmes plutôt que de s'occuper des Français? Ça me paraît assez étonnant, ça ne change finalement pas grand-chose à l'Assemblée nationale, si ce n'est que le groupe majoritaire, La République en marche, n'est plus majoritaire.
Et c'est tout l'enjeu justement pour ce nouveau groupe, même au sein de la majorité, la possibilité d'agir sur le rapport de force, alors que le second tour des municipales laisse déjà entrevoir un remaniement ministériel.
Un militant de l'ultra-droite interpellé à Limoges, un homme de 36 ans soupçonné d'avoir projeté des actions violentes, racistes ou antisémites. C'est apparemment la publication récente d'une photo sur Internet présentant un individu armé, porteur d'un masque à gaz, qui a décidé, la DGSI, à procéder à cette interpellation. Cet ex-militaire, proche des milieux suprémacistes, publiait régulièrement des contenus haineux et antisémites sur le réseau social Minds, un réseau alternatif où se réfugient et échangent nombre de néonazis. Aux États-Unis, le président Donald Trump a accusé Twitter d'interférer dans la présidentielle américaine en signalant pour la première fois deux de ses tweets comme trompeurs, une menace pour la liberté d'expression selon lui. Le réseau social, souvent accusé de laxisme dans son traitement des propos tenus par des dirigeants notamment, Twitter a donc ajouté une mention vérifier les faits à deux tweets de Donald Trump qui affirmait que le vote par correspondance était nécessairement frauduleux. On y revient dans le journal de 7h. Le temps de ce mercredi 27 mai, bien ensoleillé dans tout l'Hexagone, malgré quelques nuages dans le sud-ouest et des averses sur les reliefs et la Corse. Au meilleur de la journée, il fera 18 degrés à Calais, 23 à Colmar et à Bastia, 24 degrés à Perpignan, 26 à Paris, 28 à Quimper, 29 degrés à Bordeaux.